us. Je suis encore plus récent dans cette Église que mon estimé collègue Claude Bécher, ce qui fait que je connais Marthe depuis moins longtemps que lui, moins longtemps que chacun d'entre vous. Mais j'ai eu l'occasion de visiter Blaise et Marthe à la maison, Marthe à l'hôpital. C'était ma première visite, Blaise et Marthe. Quel accueil, quelle gentillesse, quelle affection. Difficile de poser la question « comment vas-tu ?» parce qu'elle-même me la posait avec insistance. Et l'occasion de repérer l'amour énorme qu'elle avait pour vous, ses enfants et ses petits-enfants. Quel exemple, Marthe. J'ai découvert en elle une personne profondément attachée à son Seigneur. Lors de l'une des dernières visites que j'ai pu lui faire, encore à la maison, nous avons lu un texte de la Bible qui l'a visiblement touché. Ce texte, nous le trouvons dans le livre de Job, et je vous en fais la lecture maintenant. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et dans le Nouveau Testament, ces paroles fortes de l'apôtre Paul, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Quelque chose avait donc profondément transformé la vie de Marthe, sa vision des choses, son espérance, ses valeurs, ce qu'elle voulait vous partager, l'héritage. Elle avait découvert l'Évangile. Sa vie a été comme transformée parce qu'elle a découvert l'amour de Dieu pour elle. Et c'est devenu une ancre ferme pour sa vie, une direction, un trésor à chérir et à partager. Quant aux questions essentielles, concernant le salut de l'âme et du corps, Marthe tenait sur le solide fondement des promesses du Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est l'une des paroles, semble-t-il, les mieux connues de la Bible. L'une des plus fortes aussi, pour exprimer très simplement la foi. Les chrétiens, les chrétiennes, la chérissent dans leur cœur, elle dit tant de choses en si peu de mots pour des millions d'hommes et de femmes, en but à diverses souffrances. Cette parole-là a été leur cri du cœur au milieu d'une vie exigeante, au milieu d'une vie qui a charrié son lot de difficultés. L'expression de leur certitude pour aujourd'hui, pour demain, quoi qu'il leur arrive encore dans la vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est là une parole qui ne peut être que personnelle. Ce n'est pas une simple affirmation, un simple catéchisme, le Rédempteur est vivant. Non, c'est une proclamation personnelle. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. C'est un langage plein d'assurance, plein de fermeté. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de vague espoir. Il n'y a pas de doute. Je sais bien, moi, que j'ai un Rédempteur et qu'il est vivant. Ce terme-là, le Rédempteur, le Goël en hébreu, décrivait celui qui était capable de remplir plusieurs fonctions à côté d'une personne durement éprouvée par la vie. Ce pouvait être un parent, plus ou moins proche, mais fidèle, qui venait au secours d'un membre de sa famille tombé dans le malheur. Peut-être pas pour lui aider à passer son permis de circulation, mais pour être là, à ses côtés. La pauvreté avait peut-être obligé ce membre de la famille à vendre ses terres. Et voilà que le Goël, le défenseur, le rédempteur, faisait valoir ses droits de rachat pour récupérer les biens de son parent. La pauvreté avait pu conduire quelqu'un à vendre sa propre personne à quelqu'un d'autre quand il avait accumulé de lourdes dettes. Et le Goël, le rédempteur, venait. Il rachetait ses dettes. Il lui rendait sa liberté. Il le rendait à la vie. Ainsi, pour celui qui était dans le malheur, le Goël, le Rédempteur, c'était un véritable sauveur. C'était l'espoir en personne, le secours inespéré, le salut personnifié. Et Job qui déclare « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il le dit face aux souffrances incompréhensibles qu'il subit depuis des semaines. Il le dit face à des amis qui soupçonnent qu'il leur cache quelque chose et que Job a certainement bien cherché les malheurs qui s'abattent sur lui. Il le dit face aux membres de sa propre famille qui ne comprennent pas sa foi en Dieu, même dans le malheur, alors qu'ils pensent que Job devrait plutôt maudire Dieu. Job avait la foi. Quoi qu'en pensaient ses proches, ses amis, quelles que soient les circonstances, foi en Dieu. Un Dieu juste et bon. Un Dieu qui aime sans réserve ceux qui se confient en lui. Un Dieu en qui on peut avoir confiance, vraiment. Un Dieu que Job ne comprenait certes pas. Pourquoi avait-il permis que tant de malheurs s'abattent sur lui ? Mais un Dieu qui, il en était sûr et certain, ne l'abandonnerait pas, jamais. Et la foi de Job allait même au-delà de la mort. Job avait la certitude qu'un jour Dieu allait lui manifester encore plus largement son amour. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite. » Il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Telle était la foi de Job. Et telle était aussi la foi de Marthe, dont le parcours de vie ressemble à certains égards à celui de Job. Dans la vie de Marthe, et vous le savez bien, il y a eu des pertes, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. Et pas seulement ces dernières semaines, mais ces dernières semaines, l'épreuve s'est faite intense. Le Seigneur le sait, m'a-t-elle dit. Aujourd'hui, ce mot de rédempteur, il a pris une richesse de sens que Job ne pouvait pas comprendre à son époque. Mais que Marthe, elle, a su saisir. Jésus le Christ a donné à ce mot, à cette fonction de rédempteur, tout son sens, toute sa richesse d'amour, de grâce, de compassion, de volonté, de délivrer, de sauver. Jésus le Fils de Dieu, le rédempteur du monde, qui est venu déposer sa vie pour que nous n'ayons, nous, jamais à la laisser. Pas seulement les défendre, face à des proches peu compréhensifs, comme dans le cas de Job. Pas seulement leur permettre de se tirer d'un mauvais pas, pas juste un filet de sauvetage, pas un petit Jésus qu'on range dans sa poche. Infiniment plus que cela. un grand Jésus, venu pour sauver. Marthe l'a accueilli comme son sauveur personnel. Avec Jésus, nous avons la certitude de la résurrection, la certitude de la vie éternelle. Cette espérance forte que Marthe partageait avec tant d'autres chrétiens est si bien résumée par cet autre texte que nous avons lu. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Un texte qui dit avec force que tout n'est pas fini avec la mort physique, que tout n'est pas fini avec le cœur qui ne bat plus, que tout n'est pas fini avec le souffle qui s'en va. Il y a un après. Marthe le goûte aujourd'hui, comme aucun de nous n'y goûte encore. Mais il y a un après. Il y a un après la maladie, un après la souffrance, un après la mort. Et cet après, Dieu nous le décrit comme l'éternité auprès de lui, assurée de son indéfectible présence, animée d'un nouveau corps à la résurrection, un corps qui ne sera plus touché ni par la maladie, ni par la souffrance. L'espérance de Marthe, qui est la mienne aussi, la conduisait avec raison à espérer en Jésus-Christ, à regarder à lui, à s'attendre à lui, non seulement pour le quotidien et l'ici-bas, mais plus encore pour la vie éternelle. Une vie qui, plus que celle que nous vivons ici et maintenant, compte vraiment. Elle le sait aujourd'hui. Elle voit l'autre côté des choses. Et elle ne s'est pas trompée. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. La joie et la paix surprenante de Marthe, y compris dans les derniers instants de sa vie, montre combien cette espérance était forte pour elle, combien elle comptait pour elle. Poursuivons cette méditation dans nos cœurs pour que nous puissions à notre tour faire nôtre cette espérance. Je vous invite à vous lever pour chanter ce beau chant, mon ancre et ma voile, sans aucun doute une parole de témoignage que Marthe faisait sienne. Je vous invite à rester quelques instants debout. Je vous communique une annonce de la part de la famille. Un verre de l'amitié vous est servi dans quelques instants. Vous êtes invité à rester pour ces moments, à saluer les membres de la famille. Il n'y a pas d'honneur qui sont rendus ici même, mais la famille vous invite cordialement à rester pour ce temps autour d'un verre de l'amitié. J'aimerais vous communiquer cette parole de bénédiction choisie sur le texte du faire-part, puis nous nous asseyerons quelques instants pour une vidéo choisie également par la famille. Le texte de bénédiction, c'est celui que nous trouvons en 1 Pierre 1, le texte du faire-part. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagne. Je vous invite à vous asseoir. Le temps de la vidéo choisie par la famille. Puis nous nous dirigerons vers la pièce, le foyer à côté, pour un temps de communion fraternelle.